des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Aujourd'hui, cap sur 2018 et sa rentrée littéraire avec ce que nous pouvons considérer comme le premier temps des écrivains de l'année, avec un choc, un duel, un face-à-face entre les deux calibres de 2018, catégorie fiction française. À ma gauche, Frédéric Becbédé qui signe son grand retour au roman, peut-être d'anticipation, on va voir. Bonjour Frédéric Becbédé.
Bonjour Christophe.
Et à ma droite, Régis Geoffrey, qui signe lui son retour à la micro-fiction. Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour Christophe.
Alors Frédéric Becbédé, prix Renaudot 2009 avec un roman français. Vous publiez Une vie sans fin chez Grasset. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé, voyant le temps avancer, voyant qu'il a franchi le cap du demi-siècle, vivant avec une femme plus jeune que lui, et surtout deux filles, ses filles, beaucoup plus jeunes que lui, et heureusement, décide d'en finir avec la mort en se lançant dans une frénétique course contre la montre pour être le premier à tester les méthodes pour devenir immortel sans passer par l'Académie française. Votre héros rencontre en Israël, en Suisse, en Autriche, en France, aux États-Unis les plus grands chercheurs en longévité humaine et s'essaie aux dernières recherches de pointe légale ou illégale pour conjurer la mort, du rajeunissement des cellules au rétrécissement des télomères, de l'injection de cellules souches à la CRISPRisation de l'ADN, c'est comme ça qu'on dit ?
Oui, bien dit, tout à fait.
Voilà. De la greffe d'organes de porc humanisé à la fusion homme-robot par stockage numérique sur l'ADN, c'est exactement ça.
Oui, ça vient d'être découvert en juillet dernier.
Voilà. Autant de protocoles destinés à nous remplacer, nous, le bon vieil Homo sapiens, par une nouvelle espèce dont on fera peut-être partie, finalement, le post-humain. Oui. Votre héros y arrivera-t-il ? On laisse nos auditeurs évidemment le découvrir dans ce roman qui n'est pas de la science-fiction, vous nous dites, mais de la science-non-fiction.
Oui, parce que c'est mon point commun avec Régis Geoffrey. Je m'intéresse beaucoup à la réalité contemporaine. J'avais écrit un livre sur le 11 septembre. Je pense que la limite entre fiction et non-fiction est en train de tomber aujourd'hui. De plus en plus de livres parlent utilise les méthodes de la fiction, la structure, la construction, les personnages de la fiction, mais pour raconter des histoires vraies. Et là, cette enquête est une vraie enquête documentée, qu'on peut vérifier. Les personnes que j'ai rencontrées existent. Les instituts où j'ai fait des procédures, des transfusions sanguines et des séquençages de mon génome et tout ça sont des endroits qui existent. Et en même temps, évidemment, je me suis amusé avec cette histoire aussi à imaginer des choses. Donc il y a un mélange de vrai et de faux.
Les transfusions sanguines, vous l'avez fait vraiment ?
Oui, alors ouais. C'est en Autriche, il y a un institut qui propose de vous injecter votre propre sang oxygéné avec des sels minéraux et en même temps avec un laser dans la veine, ce qui permet, paraît-il, de rajouter de la vitamine D. C'est bon, c'est un peu comme d'aller au soleil, sauf que vous avez le soleil dans votre bras.
Dans votre corps. Voilà. On a eu 0 cas de Don DeLillo il y a quelques mois. Vaincre la mort, c'est devenu le nouveau défi des écrivains, si tant est que ça n'est pas d'ailleurs toujours été au fond le but des écrivains.
Mais je crois que c'est d'ailleurs, oui, un des plus anciens thèmes de la littérature. Un des premiers manuscrits retrouvés, c'était l'épopée de Gilgamesh, en moins 2017. Et là, nous sommes en plus 2018 et je raconte exactement la même histoire. C'est toujours...
Sont les dieux.
Oui, ouais. L'histoire d'un type qui, voyant son meilleur ami mourir, refuse de mourir lui-même et commence à se lancer dans une recherche effrénée d'éternité. Et ça, c'est pas nouveau du tout, puisqu'il y a aussi un gars qui s'appelle Jésus-Christ qui a aussi fait cette recherche.
Frédéric Gilgamesh Becbédé. C'est pas mal.
Voilà, ou Jésus Becbédé, voilà. Si vous voulez, comme vous voulez. Mon fils.
Régis Geoffrey, bonjour.
Bonjour.
En 2007 paraissait Microfiction, qui vous valait le prix France Culture Télérama, je le rappelle. Bravo rétrospectivement, enfin, si je peux dire. 11 ans après, vous publiez toujours chez Gallimard Microfiction 2018, 1000 pages, ou plus de 1000 pages d'ailleurs, 500 textes, de A comme Aglaé à Z comme Zéro Baise, où en une page et demie, vous racontez un morceau de vie, une portion d'humanité, de vie banale ou monstrueuse, un couple de parents et leur fille autiste, par exemple, qui tombe amoureux du président, un homme qui en a assez de voir des anges se promener sur l'épaule de sa femme quand elle dort, une femme qui ne se trouve pas belle et qui kidnappe ses amants d'un soir avant de les offrir à son désir, puis à l'œil d'une caméra qui les rendra visibles par tous via Internet, un enfant mal aimé qui poignarde sa mère. Ce sont de petits contes cruels, merveilleux de noirceur, où on a un peu l'impression de traverser une foule, en fait, et de s'arrêter à chaque fois sur une des personnes de cette foule. Il y a un génie des titres aussi, je vous cite Régis Geoffrey. Voilà, parce que Régis Geoffrey m'avait emprunté mon livre. Monique Rombier, Montre à tourbillon, Muammar Kadhafi, Percher là-haut, Percuter les gamines, Pizza, Place Bellecour, Nous guérirons de notre amour, Lourde mascara, voilà, 500 petits texte. On parlait de la mort avec Frédéric Becbédé, ce qui revient à parler de la vie. En 2007, quand votre éditeur vous interrogeait sur le mot microfiction, vous disiez « C'est une tentative de faire rentrer toute la vie d'un homme ou d'une femme dans une goutte d'eau, la goutte d'eau étant cet espace très limité d'une page et demie. » Qu'est-ce qui vous excite à ce point, à l'idée de concentrer la vie d'un homme ou d'une femme dans cette goutte d'eau de 5000, 6000 signes, espace compris ? Rien de plus pour toute une vie ?
Beaucoup moins, c'est 3000 signes, peu importe. Oui, ce qui m'intéresse, c'est que peut-être pour arriver à une sorte de classicisme absolu et de dépouillement absolu, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est de donner de la narration presque à l'état pur. C'est-à-dire d'avoir une forme pure, c'est un peu comme en architecture, s'il n'y avait plus du tout d'ornement. Et c'est une recherche, en fait, du classicisme absolu, si on peut dire que d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis du classicisme, ça n'a rien à voir avec ce style-là. Oui, d'un style vraiment dépouillé, qui est plus rien et qui est plus que la narration, parce que moi, c'est ça qui m'a toujours intéressé, c'est raconter une histoire.
Et là, vous pourriez faire ça sur 300 pages. Au fond, vous pourriez être d'un classicisme absolu.
Il l'a fait, mais voilà,
je l'ai fait sur 700 pages aussi.
Donc, c'est sur l'idée de brièveté, comme on parle de brièveté de la vie, et de trop grande brièveté de la vie, peut-être pour la conjurer, c'est une page et demie, quoi.
Mais ça a coûté un peu le geste du samouraï, et puis ça entre dans une vie, en fait, dans la mienne, parce que c'est une histoire par jour. Donc ça a un côté, une finitude, vous commencez et vous terminez dans la journée. Il y a une certaine beauté de la chose et en même temps on s'aperçoit qu'un jour c'est assez long.
C'est-à-dire que c'est un tir à l'arc aussi.
Oui, je trouve que ça a un peu ce côté-là. Ouais. Et puis surtout, moi, ce qui m'a attiré pour écrire ces microfictions 2018, c'est le bonheur que j'avais éprouvé à écrire le premier livre de microfiction. C'est surtout basé là-dessus, sur le bonheur d'écrire. Ça, pour moi, c'est un bonheur total d'écriture.
C'est rare d'entendre un écrivain dire ça, de ne pas parler de la souffrance.
Mais moi, je suis de plus en plus dans le bonheur d'écrire. Franchement, c'est une des plus grandes joies de ma vie et de ma journée, c'est d'écrire.
Partagez ça, Frédéric Becbédé ?
Non, pas du tout. Moi, je suis très laborieux. Je ressens un plaisir quand j'arrive à formuler une idée ou à saisir une image, une beauté. Et oui, c'est agréable, mais c'est agréable à quel prix ? Beaucoup de solitude, beaucoup de sueur, de besogne. Et j'ai une admiration sans borne pour les microfictions. Mais je constate quand même qu'entre les deux, il y a une différence. C'était beaucoup plus sombre il y a 10 ans. J'ai l'impression qu'il y a certaines microfictions 2018 qui arrivent aussi à parler de bonheur. Et ça me fait plaisir pour Régis, il va mieux.
Je demandais à Frédéric Becbédé tout à l'heure, est-ce que le nouveau défi de l'écrivain au 21e siècle, ça ne semblait pas être de vaincre, non pas de parler de la mort, mais de vaincre la mort. Est-ce que, pour ce qui vous concerne, Régis Geoffrey, pardon, c'est pas rivaliser avec la vie ? Je me fie à une phrase qui présente votre livre, « Toutes les vies » à la fois. Et dans ce côté samouraï dont vous parliez, de les enfermer dans une goutte d'eau, il y a quelque chose, oui, de démiurgique, de rivaliser avec une sorte de dieu qui regarde ces petites créatures et qui les enferme dans ces gouttes d'eau. C'est votre image à vous.
Oui, mais j'ai surtout, ça a peut-être un rapport avec une fascination que j'ai depuis ma prime jeunesse. C'est, vous savez, ces grands immeubles qu'on voit. Alors, c'est pas les tours, parce que souvent en France, c'est les tours de bureaux, mais les grands immeubles d'habitation et qu'on voit le soir. Alors, à l'époque, c'était bleui par les écrans de la télé qui étaient encore en noir et blanc. Et toutes ces vies qui se passent, comme un peu dans les maisons de poupées, mais les maisons gigantesques. Et ça m'a toujours fasciné. Et alors c'est des choses qu'on ne voit pas, et c'est beaucoup plus intéressant si on les voit, de ne pas les voir, parce que si on les voyait, ce serait insignifiant. Et c'est s'imaginer que là-dedans il y a des boîtes, et que dans ces boîtes il y a une vie, il y a toute une vie, et toutes ces vies qui ont une importance colossale et capitale. Je me rappelle un texte que j'ai perdu, mais j'avais écrit sur un canapé. Un canapé, vous achetez un canapé, le canapé, au bout de 30 ans, on va le jeter. Tout ce qui s'est passé sur un canapé, toute la vie, tout le bonheur, toute une famille qu'il y a eu. Voilà.
Et donc, du malheur aussi.
Du malheur aussi, oui. Tout ce qui a pu se passer, ce qui a pu être dit en étant assis sur un canapé.
Merci à tous les deux d'avoir accepté cette invitation. J'ai appelé ça « La mort, la vie ». Ça vous ressemble un petit peu. Et en la préparant, j'ai trouvé cette phrase de Maurice Maeterlinck, donc prix Nobel de littérature, écrivain francophone belge, figure de proue du symbolisme, évidemment célèbre pour Péléas et Mélisande, mais aussi passionné de biologie. Il a écrit « La vie des abeilles », un esprit curieux. Il écrivait ça. « Accoutumons-nous à considérer la mort comme une forme de vie que nous ne comprenons pas encore. Apprenons à la voir du même œil que la naissance. Il est tout à fait raisonnable et légitime de se persuader que la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau. » Vous n'êtes pas très maeterlinckien, Frédéric Becbédé, dans ce livre.
En fait, j'ai toujours écrit sur la mort parce que tous mes personnages sont des angoissés qui courent autour de la planète pour fuir le vieillissement, la maladie et la mort. Et je pense que ça fait partie de l'acte d'écrire, de vouloir vaincre la mort. Et quand vous disiez à Régis qu'il se prenait pour Dieu, je crois que tous les écrivains prennent pour Dieu. Non, mais tous les écrivains.
Je suggérais cette hypothèse.
C'est le principe. Dès qu'on prend un stylo et une feuille de papier, on se prend pour Dieu. C'est un acte complètement mégalo d'écrire. Bon, alors après, oui, il y a aujourd'hui, la science aujourd'hui est en train de progresser quand même de manière assez étonnante pour la lutte contre les maladies et peut-être pour la prolongation de la longévité humaine, surtout depuis 2012 où il y a eu cette découverte génétique CRISPR-Cas9 donc qui permet de découper, éditer, remonter l'ADN humain, et puis les protéines Yamanaka, prix Nobel en 2012. Pourquoi ? Pour avoir réussi à prendre des cellules d'adultes et en faire des cellules de bébés, des cellules souches, donc qui peuvent devenir n'importe quel organe. Ces deux découvertes-là, évidemment, m'inspire et inspire beaucoup de romanciers, parce que c'est tellement fou qu'il y a des milliers d'histoires à raconter à partir de là.
Donc ce Yamanaka est très maeterlinckien, lui, puisque finalement la tombe n'est pas plus redoutable que le berceau, puisqu'il met du berceau dans la tombe.
Exactement,
en fait, pratiquement.
Oui. Il prend des vieux et il en fait des jeunes, ce japonais.
Régis Geoffrey, quand on lit vos micro-fictions 2018, on tombe sur cette phrase-là. C'est un spectacle réjouissant de voir ces gens en train d'exister avec cette ardeur, cet enthousiasme, cette voracité. Je ne suis pas jaloux, une fois suffit. J'ai eu des chagrins, des déconvenus, mais je n'ai pas raté ma vie au point de vouloir la recommencer.
Oui, d'ailleurs, au passage, il y a beaucoup d'opinions qui sont données dans ce livre qui ne sont pas forcément les miennes. Oui,
heureusement d'ailleurs.
Heureusement.
On va prévenir l'auditeur que c'est de la fiction.
D'autres vies, ce sont souvent d'autres vies que les miennes, comme dirait Carrère. Oui, non, par rapport à la
une
mort.
Fois suffit,
une fois suffit. Ben, il y a un peu ce côté-là, oui, une fois suffit. Pour parler de la mort, cette mort, on a toujours dû s'habituer à la mort. Et là, le fait de prolonger la vie à 500 ans ou 1000 ans, il y aura toujours cette question. Moi, je pense que c'était Montaigne qui parlait du mourir. Il disait, j'ai pas peur de la mort, j'ai peur du mourir. Moi, je pense que si on n'avait pas peur de la mort et qu'on mourait dans son sommeil, la mort serait solutionnée, finalement. Mmh. Après, il y a un des gros problèmes qui se pose, c'est que si on vit 500 ans, il y aura un sous-prolétariat, ce sera les jeunes qui n'auront rien. parce qu'on aura accumulé.
Ça, Frédéric Becbédé en parle. Nouvelle guerre, d'ailleurs, jeune oui, vieux.
Il y a une grosse difficulté dans la vie, c'est d'arriver, vous savez, à voir la plénitude, parce que c'est impossible à trouver. C'est-à-dire, cueille le jour, carpe diem, c'est impossible. Comment faire pour profiter plus de l'instant?
En ce moment, par exemple.
Oui, c'est très difficile de faire mieux.
On est dans le carpe diem.
La jouissance pure. Voilà.
C'est exact.
Oui, bien sûr. Voilà. Oui, on parle de littérature. D'ailleurs, justement, une vie sans fin. Qu'est votre titre, Frédéric Becbédé. Est-ce que ça ne serait pas une superbe définition pour la littérature? Parce qu'au fond, quand on regarde, vous en parliez, hein, Gilgamesh, déjà les grandes épopées, mais Sénèque, Cioran, tous les écrivains ont été finalement sur la ligne de front, c'est-à-dire parler de la mort, de la fin de la vie. Finalement, quand on prend la plume, c'est une façon, je ne vais pas dire de retenir la nuit,
oui.
Mais de retenir la vie.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est cet orgueil dont on parlait avant. C'est une démarche très bizarre de écrire, c'est vouloir être éternel ou éterniser des moments, éterniser des choses. Ce qui fait dans ces livres, Régis, et d'une certaine manière que je fais également, c'est de chercher à capturer, à éterniser l'éphémère, quoi.
C'est pas un lieu commun, alors, finalement, quand on dit on écrit pour ne pas mourir, au fond, finalement, pris à la lettre.
Oui, bien sûr.
C'est pas un cliché.
C'est pas un cliché, c'est un peu pathétique, mais c'est comme ça. Et il y a aussi, c'est l'histoire d'un père de famille, et d'une certaine catégorie de père de famille. C'est-à-dire le père de famille tardif. Après 50 ans, c'est une injustice, mais les hommes peuvent continuer à faire des bébés. Et c'est mon cas, et j'en vois plein autour de moi, des quinquagénaires qui font des enfants. Et ça te met dans une situation, c'est même un phénomène de société actuelle, une situation d'avoir à revivre, à recommencer une famille à l'âge où normalement on devrait prendre sa retraite et se préparer à mourir.
Et mourir devant des enfants
c'est
jeunes.
C'est ce choc. De la rencontre entre les bébés et les vieillards, quoi.
Oui, mais justement,
à l'origine du livre.
On pourrait dire que l'écrivain a pas à faire de bébé, si sa forme d'immortalité, c'est l'écriture. Régis Geoffrey.
Non, mais je crois que ce sont deux choses différentes. Et puis moi, j'ai pas l'impression d'entrer dans l'immortalité en écrivant. Je pense qu'il y a une.
Je parlais pas de postérité, hein. Attention.
Oui, non, mais j'ai bien compris.
Ni d'éternité de ce
qu'on
écrit. Je pensais ce que disait Frédéric, c'est-à-dire de mettre en brique des morceaux de vie pour les garder un petit peu au chaud.
Moi, de plus en plus, il y a une l'extase de l'écriture et dans l'écriture elle-même, ça depuis assez longtemps. Donc, c'est quelque chose de différent. Et le fait d'avoir des enfants m'a jamais paru contradictoire, alors que souvent il y a beaucoup d'écrivains qui pensent que c'est contradictoire parce que s'ils ont des enfants, ils n'écriront plus. S'ils ont une famille, ils n'écriront plus. Alors que, au contraire, ça me paraît plutôt propice à l'écriture, finalement, la vie de...
Ça donne des histoires
famille.
À raconter.
Déjà, et puis c'est un... La personne qui a une famille déjà n'est pas dans les boîtes de nuit tous les soirs.
Quoique,
ça ne veut rien dire.
On continue avec ça. Voilà, déjà la boîte de nuit, mais on va parler de boîte de vie plutôt avec vos deux livres. On commence avec vous, Frédéric Becbédé. Une vie sans fin, c'est chez Grasset. Mais d'abord, on écoute votre choix musical. Ah. Évidemment,
oui.
Oasis, Live Forever.
Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain? Morning rain, I just soaked you to the bone. Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe, maybe I just don't believe. Maybe you're the same as me, we see things I'll never see. Lately, did you ever feel a
Oasis, Live Forever, c'est le choix de Frédéric Becbédé qui publie Une vie sans fin chez Grasset. Évidemment, Live Forever, j'allais vous dire pourquoi ce choix musical.
Ben, en fait, j'ai failli intituler mon roman Live Forever et puis il y en a un peu marre des titres en anglais, donc finalement c'est Une vie sans fin. Ce qu'il y a de commun entre Oasis et ce livre, c'est que finalement c'est la même chose. Des gens qui rêvent de vivre toujours et puis qui se sont séparés et qui finissent par mourir. Le groupe Oasis s'est séparé.
Gallagher.
Oui, c'est ça. Donc c'est assez beau comme destin. Voilà, on rêve d'éterniser les choses et puis finalement, évidemment, quand on meurt, c'est la réalité.
Et puis dans le rock, il y a toujours eu cette espèce de pacte faustien, être non pas ne jamais mourir, mais même être jeune pour toujours et vendre son âme au diable, à Satan, d'où le côté satanique du rock'n'roll.
Je cite beaucoup, tous les romans dans l'histoire de la littérature qui parlent de jeunesse éternelle, c'est extraordinaire parce que en fin de compte, quand on se lance dans un projet pareil, on se dit ah c'est original. Après tout, je parle de découvertes très récentes, mais en réalité, je fais un sujet qui est d'une banalité effrayante. Non seulement il y a Faust, mais il y a Dorian Gray, il y a Dracula, il y a Frankenstein, il y a Peter Pan. Il y a le Nouveau Testament,
il y a la justement
donc,
je pose la question
le mythe de Prométhée et Orphée. Enfin c'est
la quête du Graal,
c'est
aussi
un sujet donc ça veut dire qu'il y a quelque chose dans l'humanité qui est cette utopie, il y a cette espèce de désir de vaincre la mort qui est quelque chose qui est aussi éternel que la mort elle-même.
Alors justement, moi je pensais à un autre genre littéraire en lisant. D'ailleurs, je précise que sur cette couverture, c'est l'anneau de Möbius en fait.
Ruban de Möbius.
Möbius, c'est ça.
Et qui est en forme d'infini. Quoi.
Voilà, c'est ça. Cette forme impossible qui justement ne s'arrête jamais finalement.
Qui n'a qu'un côté.
J'ai pensé à un autre genre littéraire en vous lisant. Je me suis demandé si vouloir justement vaincre la mort, c'était pas aussi renouer, parliez des épopées d'ailleurs vous-même, et avec le grand roman de chevalerie. Au fond, il s'agit de trouver le Graal, la vie éternelle.
La quête de jouvence.
Sauf que Perceval a 50 ans.
Voilà, il a 50 ans, il vient d'avoir un enfant, il travaille comme animateur télé, ce qui est le métier le plus éphémère qui soit, nous le savons bien. Et dont il ne reste rien. Et donc lui, son obsession, c'est de durer, c'est d'essayer d'exister. En fait, comme beaucoup de gens qui, par exemple, sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils veulent, ils veulent exister, ils veulent laisser une trace. Ils sont prêts à dévoiler toute leur vie privée pour
des likes,
pour quelques likes, Et en fait, c'est un livre là-dessus. C'est finalement en dehors de l'idée de mort. Il y a l'idée de qui suis-je, pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux faire pour qu'on se souvienne de moi.
Alors il a 50 ans. Il a passé ce cap. En tout cas, lui considère que c'est un cap. Il a décidé votre héros de faire tout ce qu'il peut pour éviter la mort, pour tenter donc d'accéder à une idée d'immortalité. C'est très concret car au travers de ce livre, on le suit dans sa recherche et c'est l'objet du roman, une recherche qui l'emmène dans tous les laboratoires ou toutes les cliniques les plus déterminantes en tout cas pour cette recherche de l'immortalité puisqu'il rencontre les meilleurs spécialistes, des grands chercheurs en longévité humaine qui conspirent contre la mort en faisant tout ce qu'ils peuvent par la science pour l'éloigner de leurs patients. Alors vous nous emmenez d'ailleurs avec lui, les rencontrer en Israël, en Suisse, en Autriche, en France, aux États-Unis. Il s'agit des professeurs Bouganim, Antounaraki, Shulika, Laurent Alexandre dans un autre genre, le professeur Salman, Church.
Church, qui est patron de Harvard Medical School. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, ça raconte l'histoire d'un type qui est fou, puisque un type qui veut pas mourir est évidemment un taré, un malade mental, mais qui rencontre des gens plus fous que lui. Et à chaque fois qu'il va voir ces gens, qui sont quand même de grandes éminences, des grands savants, il s'aperçoit qu'il lui parle sérieusement de la suppression de la mort, ce qui est voilà la plus grosse absurdité du livre et où tout est vrai.
Alors on en apprend beaucoup sur l'injection de cellules souches, la CRISPRisation, on en a parlé tout à l'heure de l'ADN, le rétrécissement des télomères, autant de protocoles qui sont destinés à remplacer l'Homo sapiens par le post-humain.
Oui.
Est-ce que vous diriez que c'est aussi Vous parliez tout à l'heure d'injection de sang réoxygéné que vous avez fait vous-même.
Il y a aussi un institut qui s'appelle Ambrosia qui propose des injections de sang jeune.
Ambrosia, donc comme l'ambroisie, le mets des dieux.
Voilà.
Et on ne quitte jamais la mythologie, au fond.
C'est ça. Ça se passe, c'est à Monterey, en Californie. Vous pouvez y aller. Ça coûte $8,000 la journée. Et vous faites injecter du sang de votre groupe sanguin, mais de personnes de 19 ans.
On va en parler. Parce
pour vous, par exemple, Christophe, ça vous ferait vraiment beaucoup du bien.
Oui, j'en ai un petit peu besoin. $8,000, on en parlera parce qu'il y a cet aspect-là aussi politique, économique et de lutte, finalement, de nouvelle lutte des classes. On parlait Régis Geoffrey tout à l'heure.
Moi, j'ai une question à poser. C'est que dans tout ce que vous avez pu voir, est-ce que vous avez pu voir un résultat? C'est-à-dire quelqu'un qui était rajeuni, même un peu.
Mais regardez-moi.
À part vous. Non, sérieusement, parce qu'il cherche des résultats extraordinaires, mais un résultat très simple, par exemple, quelqu'un de 70 ans qui fait 50 ans.
Oui,
ça n'existe pas.
Parmi les transhumanistes en Californie, il y a des types qui disent, vous voyez, regardez-moi, j'ai 70 ans, j'en fais 20 de moins. Mais en réalité, quand vous les regardez de près, ils ont une perruque, ils sont liftés, ils sont bronzés avec de la, avec
donc
de,
c'est
du maquillage.
Donc c'est illusoire, au fond. C'est
oui, aussi, je pense qu'on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Mais à chaque fois, quand même,
mais
la science
progresse.
C'est quand même
progresse. Curieux, parce que ça commencera quand même par rajeunir un peu les gens.
Oui.
C'est non, mais même de 2 ans.
En fait, le protocole qui consiste à rajeunir, qui s'appelle Age Reversal, ça, c'est un truc qui marche pour l'instant que sur les souris. Ça n'a pas été encore essayé sur les humains. C'est d'injecter les fameux facteurs Yamanaka. Et là, pour l'instant, si on injecte ces facteurs à un humain, il attrape un cancer et il meurt. Donc, on n'y est pas. Mais d'ici 10-15 ans, peut-être.
Vous avez pensé à Hunter Thompson, un peu, en écrivant ce livre, dans les préparatifs. Il y a un côté enquête gonzo dans ce livre.
Pour être franc, au début, j'avais... créer un personnage de fiction qui s'appelait pas Frédéric et qui faisait tous ses tests sur lui-même. Et puis très vite, je me suis rendu compte que c'était plus amusant et plus intéressant que j'ose m'impliquer moi avec tout ce que ça a de ridicule, parce que je suis, oui, un type de 52 ans qui a peur de la mort. Il faut que je l'assume, même si c'est grotesque. Et donc, j'ai plongé le héros... ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que c'était moi qui allais essayer sur moi-même pas mal de choses. Bon, en fait, je me suis fait séquencer mon ADN, j'ai fait congeler mes cellules IPS, c'est-à-dire qu'on appelle...
Donc elles sont où? Ah oui, congelées.
Elles sont dans un parking de cellules souches.
Ah oui, c'est vrai.
Donc c'est au cas où un jour j'ai un problème, je peux utiliser ces cellules souches, mais pour l'instant ça n'est pas concluant, c'est pas encore au point, tous ces trucs-là. C'est un peu comme se faire cryogéniser après la mort en espérant ressusciter un jour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ces transfusions sanguines en Autriche, vous savez qu'ils sont un peu la... Maintenant, c'est la nouvelle mode. Il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Il y a paraît-il, Poutine, Keith Richards, des gens comme ça qui se font changer le sang.
Keith Richards, chef d'entreprise. Voilà. Je voudrais qu'on vous écoute lire un extrait d'une vie sans fin, parce qu'on parle peut-être de post-humanisme, de choses très post-humaines, mais il y a beaucoup de choses très humaines, et c'est ce qui fait aussi la qualité de ce roman, notamment quand vous parlez de la paternité, de l'art, non pas d'être grand-père, mais de l'art d'être père. On écoute.
Papa, si je comprends bien, tout le monde meurt. Il va y avoir grand-père, grand-mère, puis ce sera maman, toi, moi, les animaux, les arbres et les fleurs. Romy me regardait fixement comme si j'étais Dieu, alors que je n'étais qu'un père de famille mononucléaire en stage de formation accélérée à la fréquentation des services de chirurgie cardiovasculaire et orthopédique. Il fallait que je cesse de dissoudre des pilules de l'exomil dans mon coca matinal afin de proposer une issue à son angoisse. J'ai un peu honte de l'admettre, mais jamais je n'avais envisagé que mon père et ma mère seraient un jour octogénaires et qu'ensuite ce serait mon tour, puis celui de Romy. J'étais nul en maths et en vieillesse. Sous la chevelure jaune de petite poupée parfaite, deux sphères bleues commençaient de se remplir d'eau entre le four à micro-ondes et le réfrigérateur bourdonnant. Je me suis souvenu de sa révolte le jour où sa mère lui a appris que le Père Noël n'existait pas. Romy déteste le mensonge. Elle ajouta alors une phrase très aimable « Papa, j'ai pas envie que tu meures ». Comme il est délectable de retirer sa carapace. Cette fois, c'était moi qui m'embuais en réfugiant mon nez dans la douceur de son shampoing à la mandarine et au citron vert. Je ne comprenais toujours pas comment un homme aussi laid avait pu enfanter une fille aussi jolie. « T'inquiète pas, chérie, lui ai-je répondu. À partir de maintenant, plus personne ne meurt. Nous étions beaux à voir, comme souvent les gens tristes. Le malheur embellit le regard. Toutes les familles heureuses se ressemblent, écrit Tolstoï au début d'Anna Karénine, mais il ajoute que chaque malheur est unique. Je ne suis pas d'accord. La mort est un exemple de malheur banal. Je me suis éclairci la gorge, comme le faisait mon grand-père militaire, quand il sentait qu'il était temps de rétablir l'ordre dans sa maison. Mon amour, tu te trompes complètement. Certes, les gens, les animaux, les arbres mouraient pendant des millénaires, mais à partir de nous, c'est terminé. Il ne me restait plus qu'à tenir cette promesse inconsidérée.
Merci Frédéric Becbédé. Un extrait d'Une vie sans fin. Il est beaucoup question de paternité. Voilà, ce narrateur et cette fille dont il sait que s'il meurt, elle va mourir et que lui va mourir.
C'est vrai que c'est ce qui est assez compliqué. En général, c'est vers l'âge de 7-8 ans, quand votre enfant vous dit, en gros, on va tous crever. C'est compliqué de répondre oui. Il faut oser dire ça. Tu vas crever, moi aussi, tous les gens que tu aimes, tous tes proches, toutes tes copines.
Devant la mort d'ailleurs, voilà. même les rockstars se tournent vers Dieu.
Le livre parle beaucoup de religion.
Alors, ce qui est frappant, c'est l'aspect politique. Vous évoquez un traitement qui viserait à remplacer tout le sang d'un individu, non pas par le vôtre réoxygéné, mais par le sang de quelqu'un de plus jeune. Est-ce que vous semblez esquisser, Frédéric Becbédé, dans ce livre, c'est qu'après les guerres engendrées par le pétrole, l'énergie, le réchauffement climatique, la nouvelle guerre pourrait bien être une guerre du sang entre les vieux riches et les jeunes pauvres, entre les immortels et les mortels, mais au fond, ça se réduira à ça, vous l'avez dit, $8,000 rien que pour se faire...
Pour 4 heures de transfusion de sang de jeunes.
Mais là,
c'est vrai que c'est le truc qui m'a le plus... Enfin, j'ai découvert pas mal de choses, j'ai appris plein de trucs en faisant cette enquête, mais... Une des choses les plus choquantes, c'est l'idée que la science actuelle valide le vampirisme. La différence avec Dracula, c'est que Dracula, il ingère le sang dans son système digestif. Et c'est là où Bram Stoker s'est trompé. En fait, il faut l'injecter dans le système sanguin, dans la circulation sanguine. Si on met du sang jeune, on rajeunit. C'est démontré aujourd'hui, ça s'appelle la parabiose hétérochronique. J'aime bien frimer avec les mots compliqués.
Ah, vous êtes devenu très calé.
Hétérochronique parabiosis. Mais c'est le grand patron de la génétique à Harvard qui m'a expliqué ça.
Mais ça, c'est, vous parlez du vampire, de Dracula. Ce qui est fou, c'est que le début, c'est un livre qui est constellé de littérature. Enfin, c'est de la littérature, mais je veux dire, c'est les écrivains, beaucoup de citations aussi d'écrivains. Mais plus que ça, quand le narrateur est à Genève, dans cet environnement où il y a des cliniques absolument géniales, il y a aussi la fameuse Villa Diodati, la maison où Mary Shelley, avec Lord Byron et John Polidori, a donné vie à Frankenstein, c'est-à-dire le premier, peut-être, un des premiers récits, pas le premier, mais de science-fiction.
Où la science permet de ressusciter l'homme.
Un cadavre.
L'homme devenu Dieu, exactement, D'ailleurs, c'est sous-titré Frankenstein ou le Prométhée moderne.
Exactement. Donc encore la mythologie, on n'en sort pas.
Et c'est assez marrant que précisément à Genève, où il y a une clinique du génome, et c'est là où a été écrit Frankenstein. Il y a des médecins qui aujourd'hui tentent de réaliser le rêve de Frankenstein là-bas.
Est-ce que la science-fiction est un genre mort dans la mesure où la science est en train de dépasser la fiction?
Ça, c'est tout le problème quand on commence à s'intéresser à ce genre de sujet, parce qu'on s'aperçoit que, encore une fois, les gens que j'ai rencontrés me tenaient des propos tellement hallucinants que tout ce que j'aurais pu imaginer aurait été ridicule et inférieur à leur baratin. Donc c'est à la fois passionnant et effrayant, parce que on a affaire à des Frankenstein ou à des personnages plus dingue que l'imagination.
Mais c'est là que parfois, c'est là où j'ai du mal parfois à vous suivre, Frédéric Becbédé, parce que quand je disais, donc c'est un livre qui est constellé de littérature, parlait de Bulgakov, parlait de Lovecraft, de Bukowski, de Marina Tsvetaeva, la grande poétesse. D'ailleurs, on pourrait se dire, et vous le dites, le texte de vie que vous lisez garantit mon éternisation. D'ailleurs, il y a une couverture rigide dont on se dit que vous l'avez choisi pour que ça résiste encore plus au temps.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y avait deux solutions. Ou bien avoir du talent, ou bien avoir une couverture solide. Comme ça, je suis un petit peu rassuré.
Alors, voilà, la chose dont je voudrais qu'on parle maintenant, et qui est très problématique pour moi, c'est qu'au début de votre texte, vous citez Mark Twain. La différence entre la fiction et la réalité, c'est que la fiction doit être crédible. Et vous ajoutez, vous... Mais que faire quand la réalité ne l'est plus crédible? Comme si ça vous angoissait. Mais que la réalité ne soit plus crédible, en quoi ça concerne les écrivains? Mark Twain le dit. pourvu que la fiction soit crédible, tout va bien. Et je me suis demandé si finalement, en ce moment, et je vois aussi l'avis de Régis Geoffrey, est-ce que les écrivains n'ont pas peur de ne pas être assez réels? Vous allez, dans le livre, jusqu'à mettre une photo de votre propre cœur, avec le nom, Frédéric Becbédé, d'ailleurs, une photo, une sorte de radio en 3D.
Ceci est mon cœur livré pour vous.
Voilà. Est-ce que les écrivains n'ont pas peur d'être pris en défaut de réel? On a reçu ici Olivier Cadio, qui, dans son histoire de la littérature récente, s'interrogeait sur le rapport entre réel et écriture et qui soulignait avec beaucoup d'ironie la nouvelle frénésie de réel qui semble agiter la littérature. Il disait « Pendant 1000 ans, on s'est tapé l'irréel, maintenant c'est parti pour le réel. Voilà la nouvelle rumeur. Ça commence, ouvrez les yeux, soyez réalistes, on est enfin dans la vraie vie. » Mais quand Flaubert écrit Madame Bovary, quand Tolstoï, dont vous parlez, écrit Anna Karénine, il est quand même dans le réel. Et on a l'impression qu'avec cette entrée en matière, finalement, il y a ce doute, mais que partagent plein d'écrivains, peut-être.
Je pense qu'on est à un tournant qui est... voilà, ce mur entre fiction et non-fiction est tombé. On le voit d'ailleurs dans les prix littéraires cette année. Il n'y a pas un ouvrage d'imagination, ce sont que des histoires vraies. Je pense que même quand il écrit de la fiction, Régis... tente de refléter le monde, d'être comme ce que dit Stendhal, un miroir qu'on promène le long du chemin. Et c'est voilà, moi, ce qui était bizarre dans mon enquête, c'est qu'il y a un mélange de reportages, de vraies interviews avec des chercheurs, et en même temps, j'essaye d'imaginer des choses. Et bizarrement, les passages les plus fictifs sont ceux qui sont autobiographiques. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que les gens, quand ils parlent d'eux-mêmes à la première personne, c'est là où ils mentent le plus. Donc, peut-être que c'est un jeu avec le vrai et le faux. On apprend des choses sur la science et en même temps, je joue avec le fantastique dans ma propre vie. Mais bon, vous avez raison, le roman actuel a perdu... l'imaginaire.
Est-ce que le mot de fiction, on a parlé d'autofiction pendant des années, est-ce que ça voulait dire quelque chose? C'est un débat. On parle maintenant d'exofiction, est-ce que ça veut, quand on s'appuie sur une histoire vraie, est-ce que ça a un sens? C'est un débat.
J'ai fait les deux, j'ai fait les deux. J'ai bien aimé écrire sur Salinger et Una O'Neill un livre voilà, où j'étais pas trop présent. Puis un roman français ou celui-là, qui sont des livres très autobiographiques, très intimes. Bon, et puis j'avais fait un livre sur le 11 septembre aussi. Je pense qu'on peut essayer tout, il faut tout essayer, mais à chaque fois, c'est quand même la réalité qui l'emporte dans les livres que j'ai faits. J'ai jamais réussi vraiment à inventer un monde autre que celui dans lequel je vis.
Régis Geoffrey, il y a une compétition entre ce qui serait la réalité, je veux dire, et la littérature. Il faudrait que la littérature toujours colle à cette idée de réalité. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Tous ces débats, autofiction, exofiction, il faut être dans le réel.
Microfiction.
Voilà, justement.
Je crois qu'en réalité, on est sur un double mensonge. C'est-à-dire que, d'une part, l'imaginaire n'existe pas à l'état pur. Et deuxièmement, on ne peut pas refléter le réel. Donc, pour moi, ça a toujours été sur ce mode-là.
Je vous interromps. Refléter le réel. Est-ce que c'est le miroir là dont parlait Frédéric avec Stendhal quand vous dites refléter le réel, déjà, il faut expliquer.
Non, je voudrais dire.
Par là.
Je voulais dire reproduire le réel. Voilà, c'est un genre différent. C'est un peu comme quand vous adaptez un livre au cinéma. C'est un genre différent. On ne peut pas les recopier. Mais je voudrais juste dire, par exemple, une fiction. Dans la littérature, c'est de penser que Balzac reproduisait le monde de son époque. Non, c'est le fantasme de Balzac, c'est le fantasme de l'ambitieux qui vous dit que la société n'arrête pas de bouger, que les gens se ruinent, font fortune, etc. C'était juste, il a projeté ça sur le réel parce qu'il n'arrivait pas à la hauteur de ses ambitions. Donc il a dit, je vais faire d'une réalité qui soit taillée à ma mesure. Et je pense qu'il y a toujours cette ambiguïté et je pense qu'on ne peut pas reproduire la réalité, ce qui fait que la fiction est scandaleuse. C'est-à-dire qu'on interdit en France plus ou moins aux romanciers de s'emparer du réel, c'est très mal vu. Un arrêt de la Cour de cassation dit que, je le cite parce que j'aime beaucoup le citer parce que je trouve que c'est assez scandaleux.
C'est dingue,
un arrêt de la Cour de cassation dit... Un romancier n'a pas les mêmes droits qu'un journaliste, car un journaliste est là pour informer et un romancier pour divertir le lecteur, c'est-à-dire qu'il y a le mépris total de la justice française.
C'est dit comme ça. C'est dit que le romancier est chargé de divertir.
C'est l'exacte citation. Je me permettrai pas. C'est un arrêt de la Cour de cassation. J'ai pas le numéro en tête, mais
c'est un arrêt qui concernait votre livre.
Non, c'est un arrêt qui date d'un certain temps, mais en l'absence de loi, parce qu'aucune assemblée ne pourrait légiférer dans ce sens-là, ce sont les arrêts de la Cour de cassation qui font référence.
Donc finalement, c'est presque une sécurité pour les écrivains de parler de gens morts ayant existé, au fond, pour pas sortir des clous, plus qu'une fiction qui pourrait s'amuser ou rendre dangereux le fait de parler de quelqu'un d'existant.
Moi, je peux pas parler pour Régis, mais c'est vrai que de parler, par exemple, du 11 septembre, de l'entrée de l'avion jusqu'à l'effondrement de la tour, faire un roman qui dure une heure et demie, en gros, ça me donnait une structure. Pour divaguer et écrire, essayer de chercher mon émotion face à cette tragédie. Donc c'était plus, comment dire, c'est pratique pour un romancier d'avoir une structure. Et quand la structure est une histoire vraie, c'est pratique. L'histoire d'amour entre Una O'Neill et J.D. Salinger, elle est, on la connaît. Bon, en gros, ils se rencontrent en 1940, puis après, elle épouse Chaplin et lui, il part à la guerre. Une fois qu'on a dit ça, on a une structure et on peut s'exprimer à l'intérieur de cette ossature. Et c'est, comme dit Pérec, ça facilite la racontouse.
Le mot fiction, c'est quelque chose qui, pour vous, a encore un sens, littérairement, Régis Geoffrey ?
Oui, parce que ça a un sens pour tout le monde, quoi. Je veux dire, c'est un peu comme dire une table, le pain, le sel.
C'est quoi, alors, une fiction ? Alors, c'est quoi, une fiction ?
Une fiction, c'est quand c'est pas vrai. C'est-à-dire que, justement, il y a une ambiguïté quand vous êtes condamné, parce que quand vous mettez roman, ça veut dire c'est pas vrai. Sinon, vous mettez pas roman. C'est-à-dire, roman, c'est je suis en train de mentir. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui ment, mais qui le dit. À l'avance, voilà. C'est-à-dire que c'est un jeu d'adulte, en fait. Ça pourrait pas marcher entre enfants, parce que ça marcherait pas. Il dira, ben non, mais si tu mens, on n'est plus dans la réalité. Là, nous, adultes, on a un genre qui s'appelle le mensonge et qui s'appelle le roman, et c'est écrit sur le livre, voilà.
Et c'est pour ça que la période que nous vivons est intéressante, parce qu'effectivement, tous les romanciers sont des gros mythomanes, mais qu'aujourd'hui, ils ont compliqué le jeu en mettant des histoires vraies. Donc ce sont en gros, par exemple, le prix Goncourt qui parle de l'Anschluss, le prix Renaudot qui parle du docteur Mengele. Il faut savoir que ce sont des livres de mythomanes sur des histoires vraies.
On va parler de fiction et de micro-fiction avec vous, Régis Geoffrey. On écoute d'abord votre choix musical. Liederkreis, opus 39, numéro 2 de Schumann, interprété par Dietrich Fischer-Dieskau. On écoute. So frisch, mich an zu jeder Stund. Liederkreis, opus 39, numéro 2 de Schumann, interprété par Dietrich Fischer-Dieskau. C'est le choix de Régis Geoffrey qui publie Microfiction 2018 chez Gallimard. Pourquoi ce choix musical?
Parce que j'étais en train d'écouter ce morceau et j'ai trouvé que c'était une des plus belles choses qui soit au monde. Alors ça, je le dis de beaucoup de choses, mais c'est comme parfois en écoutant du Bach, du Mozart ou quoi que ce soit, on est emporté, on se dit ah ben c'est une des plus belles choses au monde. Voilà.
Alors Microfiction 2018, c'est donc chez Gallimard, ça paraît 11 ans après vos Microfictions qui n'étaient pas 2007, mais c'était en 2007, pour lesquelles vous avez reçu le prix France Culture Télérama, je le rappelle, 1000 pages, hein, c'est Microfiction 2018, 500 textes de A comme Aglaé à Z comme Zéro Baise, où en une page et demie, vous racontez un morceau de vie, une portion d'humanité, des vies qui peuvent être banales comme monstrueuses, heureuses comme malheureuses. Je le disais tout à l'heure, un couple de parents qui raconte comment leur fille autiste tombe amoureuse à travers la télé du président de la République. Un homme qui en a assez de voir des anges sur l'épaule de sa femme et on le lira, enfin vous le lirez tout à l'heure si vous acceptez, Régis Geoffrey. Une femme qui ne se trouve pas belle et qui kidnappe après les avoir drogués ses amants d'un soir avant de les chevaucher et de les filmer, de les offrir à l'œil d'une caméra. C'est une sorte de... Ce sont des micro-fictions, des petits passages de vie, des petits morceaux de vie que vous nous offrez. Quand on regarde votre parcours, vous avez écrit des romans comme Clémence Picot ou Asile de fous, et puis vous avez écrit Microfiction. Ensuite, vous avez écrit d'autres romans, Tibère et Marjorie, Clostria, Cannibale, et vous revenez aujourd'hui aux microfictions, sous-titrés romans quand même, mais un petit peu différents de vos autres romans. Est-ce que cette fois, les microfictions, c'est pour la vie ?
C'est pour la vie. Oui, c'est pour la vie. Tout est pour la vie. Les microfictions pour la vie, au sens où j'en écrirai jusqu'à la fin de mes possibilités d'écrire, que ce soit la mort ou le gâtisme, je n'en sais rien. C'est une idée qui m'a caressé il y a quelque temps et en effet, je suis en train d'écrire la suite des microfictions. Je ne sais pas si j'écrirai ça toute ma vie, mais il y a une sorte d'enivrement, de bonheur, je vous dis, parce que chaque journée, ça me fait lever le matin, je sais ce que je vais faire.
Mais alors, quelles sont la différence ? Voilà, ça s'appelle roman, hein. Roman, c'est microfiction, donc ce n'est pas... clairement pas présenté comme un recueil de nouvelles, hein. Vous dites c'est un roman, mais qu'est-ce qu'il y a de romanesque là-dedans ? Est-ce que c'est le même romanesque dans Clémence Picot ou Tibère et Marjorie ou Clostria ?
Non, c'est des livres très différents. Là, j'ai mis roman. Alors, on accuse toujours Gallimard. Hein. C'est une idée à moi. Hein. C'est pas Gallimard qui a imposé cette chose-là. C'est que je sais à peu près ce que c'est qu'un roman. Donc, quand je mets roman, c'est que c'est un roman. C'est-à-dire que le roman est une forme qui a toujours évolué, qui a toujours changé. C'est pour ça qu'elle est si vivace. Et donc, moi, je prétends que en mettant un certain nombre de micro-fictions les unes à côté des autres, on a un roman. Parce que dans l'idée du roman, la première chose, et peut-être que c'est la chose principale, c'est la durée. Voilà. Et quand on a une certaine longueur et une certaine durée, on arrive pour moi à un roman.
Est-ce que ça n'impose pas quand même une lecture de la part du lecteur plus morcelée, et d'ailleurs possiblement morcelée, que dans un roman qu'on peut certes commencer au milieu ou par la fin, mais on va avoir des problèmes de compréhension. Là, au fond, pas du tout.
Tout à fait, mais vous savez, je vais pas me jeter dans la scène pour dire que c'est un roman. C'est une l'idée que j'ai, que c'est un roman, donc je l'ai inscrit sur la couverture. Mais
parce que vous parliez de durée, c'est pour ça que je me suis
oui,
permis.
Oui, tout à fait. Non, mais
la durée,
raison.
Elle est brève.
Vous avez strictement raison, mais c'est mon opinion, je vais dire. Mais l'intérêt du livre est là peut-être le côté pratique de l'objet. Ce qui est assez curieux, c'est qu'effectivement, on peut s'en servir comme d'un dictionnaire au sens, c'est un peu un dictionnaire d'histoire, parce qu'on peut le prendre n'importe où, prendre
c'est
n'importe
A
quelle
à Z,
page,
hein, d'ailleurs.
De A à Z, mais on peut prendre le Z, le B, etc. Et ça, c'est assez fantasmatique, parce qu'en réalité, on a souvent envie de faire ça avec un roman, mais on ne peut pas, parce qu'on perd le fil des choses. Là, il n'y a aucun fil, il n'y a aucun ordre. C'est le hasard total. Si on lit n'importe où, on n'est pas plus dans le hasard que si on lit dans l'ordre.
Voilà. Et vous êtes plus libre dans ce roman-là, ce roman micro-fictionnel, que quand vous écrivez Clostria sur un père incestueux inspiré de l'affaire Fritzl, ou la ballade de Rikers Island sur un fait divers impliquant un homme politique français, ou au fond, est-ce qu'il y a plus de contraintes qui rajouteraient plus de plaisir dans ces microfictions ?
Je pense qu'il y a plus de contraintes dans les romans comme ceux que vous avez cités, parce que pour moi, c'était d'aller sur le lieu du crime, ou pas du crime, mais sur les lieux des événements. Ça, c'était la chose qui me poussait à faire ces livres. Donc, c'était complètement différent parce qu'après, il fallait essayer de coller au réel et j'avais toujours beaucoup de mal à coller à la réalité. C'était là où c'était un exercice pour moi difficile. Là, non, la contrainte, pour moi, il n'y en a pas. C'est-à-dire que je ne ressens pas la brièveté comme une contrainte.
Mais comment ça se fabrique, en fait, une microfiction ? Vous parliez tout à l'heure de cet immeuble illuminé. Comment elle jaillit ? Vous dites qu'un écrivain, c'est un acteur. Par exemple, j'ai lu ça de vous. Oui. Il faut se mettre à la place dans le métro.
Mais oui, vous faites bien de dire ça, parce que c'est la seule explication que j'ai, en fait, pour écrire. C'est comme un acteur qui arrive, qui n'a pas de texte. Il y a du public dans la salle, il faut bien raconter quelque chose. Et c'est comme ça que les histoires viennent. Voilà, on commence et on n'a pas de procédé pour les écrire, parce que je pense que s'il y avait un procédé, moi j'aurais arrêté depuis longtemps d'écrire ces microfictions. C'est plus intéressant, mais il y en a jamais. Par exemple, j'ai écrit 3 romans qui avaient rapport au réel, mais surtout 2 qui avaient la même méthodologie, c'est-à-dire de Rikers Island et Clostria. Donc j'allais sur le
théâtre
et je racontais après. Et pourtant, cette méthodologie ne m'apporte rien. Je pense que l'art, c'est réinventer le genre. On peut pas utiliser des recettes qui n'existent pas, d'ailleurs.
Frédéric Begley.
Je trouve qu'il a inventé une forme, et je suis jaloux de ça, je l'envie beaucoup et je l'admire beaucoup, Régis, pour ça, parce qu'il a trouvé quand même avec les microfictions une forme qui est très très originale. Et je suis pas d'accord. Je pense que je connais Régis Geoffrey mieux que lui-même, parce qu'en fait, il y a peut-être pas une méthode pour l'écriture, mais on reconnaît des points communs entre les microfictions. Il y a toujours l'installation d'un personnage, d'un décor, puis une sorte de tragédie ou d'événement central, et une chute à la fin, et l'usage du tiret, par exemple. Mmh. C'est assez bizarre. Il utilise les tirets.
Alors en fait, il n'y en a plus.
Il n'y en a pas du tout.
Il y en a.
Non.
Même le pape.
Ah non, les tirets pour, oui, pour les tirets de dialogue. Oui,
il faisait des grands gestes de dénégation. Il n'y en a pas.
Mais
si,
pas
nous avons le texte sous les yeux.
Je n'ai pas bien suivi les cours.
Tu as en général un paragraphe qui installe, et puis après, il y a un tiret. C'est comme si c'était la personne qui parlait, mais à qui elle parle.
Alors justement.
On se demande si c'est pas même une enquête policière à chaque fois, où la personne est en train d'être en garde à vue et d'expliquer ce qui s'est passé.
Et si on écoutait Régis Geoffrey lire, justement, parce que là, j'ai trouvé un tiret. Donc, ça s'appelle Apitoyer la vache, et j'adore cette microfiction-là.
Pour en finir avec le tiret, j'avais mal compris. Là, c'est les tirets de dialogue. Voilà. Apitoyer la vache. J'avais remarqué depuis quelque temps qu'un ange se posait parfois sur l'épaule de Daniel. Une espèce de perdreau albinos qui se dématérialisait au moindre bruit. Elle se moquait de cette jalousie envers un volatile métaphysique dont les théologiens modernes remettaient en question l'existence. Même le pape n'y croit plus. En réalité, au fil des siècles, l'espèce s'est thérapeutisée pour survivre. On les confondait à présent avec d'indigestes mouettes. Les derniers anges à taille humaine avaient été abattus tant ils étaient recherchés pour leur viande aux saveurs supérieures à celles de tous les gibiers terrestres. Et pour leurs plumes, acheter des fortunes par de mauvais littérateurs dans l'espoir d'améliorer leur prose. Ce soir-là, Daniel s'est absenté du salon alors que depuis près d'une heure, la soirée se déroulait tranquillement devant notre téléviseur flambant neuf. J'ai laissé s'écouler une poignée d'instants avant de partir à sa recherche. Sitôt hors du salon, je les ai entendus jacasser dans la salle de bain. J'ai collé l'oreille contre la porte. Ils échangeaient en une langue inconnue, chuchotée, qu'on aurait pu confondre avec un bruit de ruissellement. Leur dialogue devenait même à certains moments tout à fait silencieux, comme s'ils usaient d'un vocabulaire fait de senteurs, celui dont usent les coquelicots pour causer aux marguerites et l'herbe quand elles tentent en vain d'apitoyer la vache qui tend sa gueule pour la brouter. Ils échangeaient des secrets aux fragrances boisées, fruitées, métalliques. Je me suis baissé pour, avec mon nez, ramasser l'air qui filtrait sous la porte. Mais je n'avais pas l'odorat assez fin pour comprendre un traître mot de leur conversation. Je suis entré. Flairant mon arrivée, il avait entrouvert le vasistas pour se laisser aspirer vers le ciel par un coup de vent. Daniel faisait semblant de prendre une douche. Elle s'était même savonné le corps, shampooiné la tête, et pour achever de rendre crédible la supercherie, elle se rinçait sous une pluie d'eau chaude. À minuit, nous lisions côte à côte dans le lit. J'avais éteint, lui souhaitant bonne nuit, d'un baiser au front. J'ai été réveillé par un bruit d'ailes juste avant l'aube. Dans la faible clarté que diffusait le réveil électrique, je l'ai aperçu accroché à son cou comme un petit enfant. Je suis allé chercher un couteau pour lui trancher le cou. Quand je suis revenu, la chambre bruissait comme une ruche. Un essaim d'anges blancs, comme des flocons, volait par toute la pièce. J'ai vidé sur eux une bombe d'insecticide. Daniel s'est plainte le lendemain d'une toux sèche et de vomissements, mais aucune bestiole venue de l'au-delà ne s'est jamais pu pointer chez nous.
Merci Régis Geoffrey. On a eu la micro-fiction en entier, Apitoyer la vache. Ouais. C'est une micro-science-fiction là presque.
Oui, là tout à fait. Là, c'est-à-dire je ne fais pas de différence entre la réalité et le non-réel. C'est-à-dire la science-fiction, si vous voulez, c'est un bien grand mot. Le merveilleux fait partie de la vie. C'est-à-dire qu'on est complètement dans une sorte de folie absolue. Et parce que je pense qu'on est dans une époque, de toute façon, où toutes les barrières mentales sont ouvertes, mais simplement on s'en rend pas compte. On se rend pas compte que nous prenons l'imaginaire pour le réel, comme je parlais de l'immortalité, parce qu'on a l'idée. Alors on va en parler de Kant, parce que les centalaires, c'est-à-dire Kant disait avoir l'idée des centalaires ou avoir les centalaires, c'est pas la même chose. Et nous, on pense qu'on a, quand on a l'idée des centalaires, on les a. C'est-à-dire on a l'idée de l'immortalité, on l'a toujours eue, mais là on pense qu'on l'a. C'est-à-dire que non seulement on l'écrit, mais on pense qu'on va l'avoir. Et donc on est vraiment dans l'époque du merveilleux. Et je pense que les anges nous paraissent spécialement des créatures qui n'existent pas, mais il y a beaucoup de choses qui n'existent pas et qui sont purement imaginaires et que nous croyons réelles.
Dernière question. Au Japon, en 2016, un roman a été coécrit par un programme d'intelligence artificielle, sélectionné parmi les finalistes d'un concours littéraire. Il n'a pas remporté le prix. C'était certes des chercheurs humains qui ont paramétré l'intrigue, mais c'est quand même un logiciel qui a sélectionné, agencé, structuré les phrases en paragraphes et en chapitres. Vous avez peur que l'écrivain soit remplacé par un post-écrivain qui sera un ordinateur, un logiciel?
Alors, je voudrais dire justement que moi, mon livre, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un algorithme que j'ai programmé, que j'ai fait programmer par des chercheurs, et ça m'a permis de prendre des vacances.
Voilà, Régis Geoffrey.
Non, moi ça me fait pas peur du tout, mais je pense que c'est tout à fait possible. C'est un peu comme quand l'ordinateur a vaincu un joueur de Go. Si vous voulez, un cheval va plus vite que quelqu'un qui court à pied. Les gens continuent à courir à pied. Moi, ça me serait égal que des ordinateurs écrivent des livres et qu'ils soient meilleurs. Moi, ce qui m'importe, c'est pas écrire des livres meilleurs que d'autres livres. C'est d'essayer d'aller, moi, vers ce qui m'intéresse et vers la quintessence de ce que moi, je peux faire. Donc, ça me dérangerait pas du tout.
Parfait. Un mot à ajouter, Frédéric ?
Si j'étais en finale d'un prix littéraire et que j'étais battu par un robot, je serais quand même un peu vexé.
Voilà. Merci à tous les deux. Je rappelle le titre de vos ouvrages. Régis Geoffrey, Microfiction 2018, c'est chez Gallimard. Frédéric Becbédé, Une vie sans fin, c'est chez Grasset. Merci à tous les deux.
Beaucoup.
Merci.
Le temps des écrivains, c'est Avril Ventura, avec la complicité de Marie Pernis, à la réalisation Rafik Zénine, à la technique Jean-Michel Coquille. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an et réécouter cette émission de manière illimitée, donc vers l'immortalité, sur franceculture.fr. Émission sur la mort de la mort avec Frédéric Becbédé et Régis Geoffrey.